Chapitre 9. En sortant de la chambre de Mademoiselle Lucienne, « Oh, il ne me retient plus à l'hôtel des Folies, » dit le commissaire de police à Maxence. « Tout ce qui est possible sera fait et bien fait par le marquis de Trégard. Donc, je regagne mon logis et je vous emmène. J'ai de la besogne par-dessus la tête. Vous me donnerez un coup de main. » Ce n'était rien moins qu'exact, ce qu'il disait là, mais il craignait que Maxence, dont la tête était absolument perdue, ne commît quelque imprudence et ne compromît le succès de la mission de M. de Trégard. Il s'efforçait de penser à tout, de livrer au hasard le moins possible, en homme qui a vu les entreprises les mieux combinées échouer faute d'une futile préparation. Une fois dans la cour, il ouvrit la porte de la loge où les honorables époux Fortin délibéraient et changeaient leurs conjectures au lieu de songer à se mettre au lit. Car ils étaient extraordinairement intrigués de tous ces événements qui se succédaient et inquiets de temps allés et venus. Et leur locataire, Lucienne, qui tout à coup se trouvait la sœur d'un marquis. « Je rentre chez moi, » leur dit le commissaire. « Mais avant, écoutez une recommandation. Vous ne laisserez monter personne, vous entendez bien, personne d'étranger près de Mademoiselle Lucienne. Et rappelez-vous que je n'admettrai aucune excuse et qu'il ne s'agirait pas de venir me dire après « C'est pas notre faute, on voit pas tous les gens qui entrent » et autres niaiseries. » Il s'exprimait de ce ton dur et impérieux dont les hommes de police ont le secret lorsqu'ils s'adressent à des gens que leur conduite a fait tomber sous leur dépendance. « Nous allons fermer notre porte, » répondirent les inestimables hôteliers. « Mais monsieur le commissaire peut être tranquille. »« Bon, je le suis parce que si vous veniez à me désobéir, j'en serais averti et qu'il en résulterait pour vous les plus graves désagréments. Outre que votre hôtel serait fermé sans miséricorde, vous vous trouveriez impliqué dans une très mauvaise affaire. » La plus ardente curiosité flambait dans les petits yeux de la Fortin. « J'ai bien compris tout de suite, commença-t-elle, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. » Mais le commissaire lui coupa la parole. « Je n'ai pas fini. Il se peut que ce soir ou demain, il se présente quelqu'un qui vous demande des nouvelles de Mademoiselle Lucienne. » « Et alors ? Bien, vous répondrez qu'elle est au plus mal et qu'elle n'a prononcé ni une parole, ni repris connaissance depuis sa chute, et que certainement elle ne passera pas la journée. » L'effort que s'imposait la Fortin pour garder le silence donnait mieux que tout la fin mesure de la frayeur que lui inspirait le commissaire. « Ah, ce n'est pas tout, » poursuivit-il. « Dès que le quelqu'un en question se retirera, vous le suivrez sans affectation jusqu'à la porte de la rue et vous le désignerez du doigt, tenez, comme cela, un de mes agents qui se trouvera par hasard sur le boulevard. Et s'il ne s'y trouvait pas, oh, il s'y trouvera, rassurez-vous. » Les regards de détresse qu'échangeaient les honorables hôteliers n'annonçaient pas une conscience bien tranquille. « C'est-à-dire que nous voilà en surveillance, » gémit le sieur Fortin. « Mais comment nous fait pour qu'on se défie ainsi de nous ?» Lui répondre était plus long que difficile. « Oh, faites ce que je vous dis, » insista durement le commissaire, « et ne vous occupez pas du reste. Et sur ce, bonne nuit. » Il avait raison de se porter garant de l'exactitude de son agent, car aussitôt qu'il sortit de l'étroit couloir de l'hôtel des Folies, un homme passa près de lui, qui, sans paraître s'adresser à lui, ni seulement le connaître, dit à demi-voix « Quoi de nouveau ?»« Rien, rien, » répondit-il, « sinon que le Fortin a le mot. La souricière est bien tendue, à toi d'ouvrir l'œil et de filer quiconque viendrait s'informer de Mademoiselle Lucienne. » Et il pressa le pas, toujours suivi de Maxence, qui s'en allait comme un corps sans âme, torturé par les plus effroyables angoisses. Comme le commissaire avait été absent toute la journée, 4 ou 5 personnes l'attendaient à son bureau pour des affaires courantes. Il les expédia en moins de rien, après quoi, s'adressant à un agent de service. « Ce soir, lui dit-il, vers 9 heures, dans un des restaurants du boulevard, une rixe a eu lieu. Un consommateur en a provoqué grossièrement un autre. Eh bien, vous allez vous rendre dans ce restaurant, vous me ferez expliquer ce qui s'est passé, et vous me saurez qui est au juste ce provocateur, son nom, sa profession, son domicile. Et en homme accoutumé à de telles commissions, peut-on avoir son signalement ?» demanda l'agent. « Oui, c'est un homme d'une certaine âge, déjà, tournure militaire, grosse moustache, chapeau sur l'oreille. Un crâneur, quoi, je vois ça d'ici. Eh bien, allez, je ne me coucherai pas que vous ne soyez de retour. Ah, j'oubliais. Sachez aussi ce qu'on pensait ce soir à la petite bourse de l'affaire du Crédit Mutuel et ce qu'on disait de l'arrestation du sieur Saint-Pavin, directeur du pilote financier, d'un banquier nommé Jotras. Peut-on prendre une voiture ? Prenez, prenez. » L'agent prit ses jambes à son cou et il n'était pas hors de la maison. Et le commissaire, ouvrant une porte qui donnait dans un petit cabinet de travail, appela « Félix !» C'était son secrétaire, un garçon d'une 30aine d'années, blond, à l'air doux et timide, ayant dans sa longue redingote les allures d'un ancien séminariste. Il parut tout aussitôt. « Vous m'appelez, monsieur ?»« Mon cher Félix, reprit le commissaire, je vous ai vu autrefois imiter fort joliment toutes sortes d'écritures. » Le secrétaire rougit, beaucoup sans doute à cause de Maxence, qu'il voyait ainsi près de son patron. C'était un garçon très honnête, mais il a de ces petits talents dont on n'aime pas à s'entendre louer, et le talent de contrefaire l'écriture d'autrui est de ce nombre, par la raison que fatalement et tout de suite, il éveille des idées de faux. « Ben, c'est en m'amusant que je faisais cela, monsieur, balbutia-t-il. »« Mais seriez-vous ici s'il en était autrement ?» fit le commissaire. « Seulement, il s'agit cette fois, non pas de vous amuser, mais de me rendre service. » Et tirant de son portefeuille la lettre arrachée par monsieur de Trégard à l'homme du restaurant, « Examinez-moi cette écriture, reprit-il, et dites-moi si vous êtes de force à l'imiter passablement. » Étalant la lettre sous la lampe, en pleine lumière, le secrétaire resta bien 2 minutes à l'étudier avec la minutieuse attention d'un expert. Et en même temps, il grommelait « pas commode du tout, fichue écriture à contrefaire. Pas un tressaillant, pas un signe caractéristique. Rien qui frappe l'œil et saisisse l'attention. Bon, ça doit être quelque ancien huissier qui a griffonné cela. » En dépit de ses préoccupations, le commissaire souriait. Vous pourriez bien avoir deviné, dit-il. Ainsi encouragé. Bon, enfin, je vais essayer, déclara Félix. Il prit une plume et, après une 12aine de tentatives, « Est-ce cela ? » demanda-t-il en tendant une feuille de papier. Soigneusement, le commissaire compara l'original et la copie. « C'est pas parfait, murmura-t-il, mais la nuit, l'imagination troublée par un grand péril, faut-il pas risquer quelque chose d'ailleurs ? Si j'avais quelques heures pour m'exercer... Ah, vous ne les avez pas ! Alors, reprenez la plume et écrivez de cette même écriture ce que je vais vous dire. » Et après un moment de réflexion, il dicta. « Tout va bien. T, provoqué, se bat demain à l'épée. Seulement, notre homme, que je ne quitte pas, refuse de marcher si on ne lui compte pas 2 000 francs avant l'affaire. Je ne les ai pas. Remettez-les au porteur qui a ordre de vous attendre. » Le commissaire suivait, penché sur l'épaule de son secrétaire, et le dernier mot écrit. « Parfait, s'écria-t-il, parfait. Allez, vite l'adresse. Madame la baronne de Thaler, rue de la Pépinière. » Il a des professions qui éteignent chez ceux qui les exercent toute curiosité. C'est avec la plus profonde indifférence et sans une question que le secrétaire avait fait ce qu'on lui avait demandé. « Maintenant, reprit le commissaire, vous allez, mon cher Félix, vous donner autant que possible la tournure d'un garçon de restaurant. Et portez cette lettre à cette adresse. »« À 7 heures ? Oui, oui, la baronne de Thaler est en soirée. Vous direz à ses domestiques que vous lui apportez la réponse de l'affaire de tantôt. Ils ne comprendront pas, mais ils vous permettront d'attendre leur maîtresse chez le concierge. » Et dès qu'elle rentrera, vous lui remettrez la lettre en disant que la réponse est attendue par 2 messieurs qui soupent dans votre restaurant. Il se peut qu'elle s'écrie que vous êtes un drôle, qu'elle ne sait pas ce que cela signifie. C'est que nous aurions été prévenus. En ce cas, décarpissez sans demander votre reste. Mais il y a bien des chances pour qu'elle vous donne les 2 000 francs. Et alors il faudra vous arranger de façon à ce qu'on la voie bien vous les donner. C'est bien entendu ? Oh, très bien. En route alors, et ne perdez pas 1 minute, j'attends. Loin de mademoiselle Lucienne, Maxence, peu à peu, avait été rappelé au sentiment de la situation, et c'est avec une curiosité mêlée d'étonnement qu'il regardait agir et s'empresser le commissaire de police. L'excellent homme retrouvait son activité de 20 ans et cette fièvre d'espoir et cette impatience du succès qu'éteignent les années. Il y avait si longtemps que cette affaire était sa constante préoccupation. Il n'était encore qu'officier de paix lorsqu'il avait eu l'occasion de soustraire mademoiselle Lucienne aux suites désastreuses d'une dénonciation infâme. De ce jour, il s'était attaché à mesure qu'il l'avait mieux connue. Pour un homme de sa profession, confident obligé de toutes les hontes secrètes et de toutes les flétrissures ignorées, condamné à laver le linge sale d'une société corrompue, c'était un rare phénomène et digne d'étude que cette jeune fille d'une exquise beauté, livrée à elle-même et qui conservait intact le pur sentiment de l'honneur, qui savait se défendre de toutes les séductions, résister à des tentations presque irrésistibles et repousser même les épouvantables suggestions de la misère et de la faim. Dès cette époque, il s'était demandé « Mais qui donc peut lui en vouloir ? Mais qui donc gêne-t-elle ? » Mais il n'avait que de vagues soupçons. Plus tard seulement, lors de l'attaque de nuit, il avait eu la certitude d'une machination ayant pour but de se défaire de mademoiselle Lucienne. Mais qu'y avait-il au fond de ce crime avorté ? « Oh, je le saurais, dit-il. Je saurais quels gens ont un si puissant intérêt à supprimer ma protégée. » Et ce devint en effet sa préoccupation habituelle, quelque chose comme une de ces innocentes manies qui bouchent tous les vides de l'existence. Quand il avait fait son métier, comme il disait, c'est-à-dire expédier toutes ces affaires banales, stupides, ridicules ou ignobles qui sont du ressort d'un commissaire, c'est à l'énigme qu'il s'était juré de déchiffrer qu'il songeait. Pour guider ses recherches, il n'avait rien que le récit que lui avait fait de sa vie mademoiselle Lucienne. C'était assez pour qu'il en tirât des déductions dont l'événement devait démontrer la justesse. Aisément, les hommes de police se laissent aller aux conjectures les plus aventurées. Ils ont vu si souvent l'impossible se réaliser qu'il n'est pas pour eux de combinaison inadmissible. Les plus bizarres conceptions des romanciers ne sauraient surprendre des gens qui ont étudié les complications des intérêts, les écarts des passions, enfin, tous les vestiges, vertige de l'esprit et des sens. Lucienne a été abandonnée par ses parents, pensait le digne homme. C'est eux qu'elle gêne. Et c'est eux qu'il s'agit de retrouver. Ah, c'était aisé à dire, non à exécuter. ou prendre le bout de fil qui pouvait conduire à la vérité. Des recherches qu'il fit à Louveciennes n'amenèrent aucun résultat. Après la commune, lorsque Lucienne fut dénoncée en même temps que son ami Elzéli et conduite à Versailles, alors seulement le brave commissaire eut un indice. On lui confia la lettre qui avait motivé l'arrestation. Oh, c'était peu de chose pour le moment, mais ce pouvait devenir décisif, car c'était un moyen de vérification. C'est pourquoi, lorsque Van Kloppen proposa à Mademoiselle Lucienne de devenir, en quelque sorte, l'enseigne vivante de sa maison, le commissaire de police, combattant ses répugnances, la détermina à accepter cette offre. Il était persuadé que parmi le beau monde qui fréquente le bois de Boulogne, elle rencontrerait ses parents et qu'un mouvement de physionomie les trahirait. Et chaque fois que Mademoiselle Lucienne se rendait au bois, il faisait monter sur le siège, vêtu d'une livrée de valet de pied, un homme à lui, un observateur intelligent et subtil. L'expérience ne devait pas être inutile. Dès la fin de la seconde semaine, cet observateur était venu lui dire « Bien, il est une femme qui, toutes les fois que sa voiture croise la nôtre, détourne la tête ou regarde Mademoiselle Lucienne avec des yeux enflammés de haine et de colère. Cette femme est la baronne de Thaler. » Le commissaire, aussitôt, s'était procuré des lettres de la baronne et de son mari. Déception cruelle, leur écriture ne se rapprochait en rien de celle de la dénonciation. Et voilà exactement où il en était de ses investigations, lorsque Marius de Trégard, qu'il avait perdu de vue depuis plus de 2 ans, vint lui confier la résolution qu'il avait prise de revendiquer la fortune de son père et de lui demander conseil. En le revoyant, éclairé soudainement par la ressemblance avec Mademoiselle Lucienne, « J'ai trouvé !» s'écria-t-il. Et en effet, grâce aux renseignements que lui apportait Marius, ce n'avait été qu'un jeu pour lui de remonter jusqu'à la marquise de Javel et de reconstituer le passé de Madame de Thaler. Maître de la vérité, il n'avait plus qu'à rechercher les moyens de la démontrer, lorsqu'arriva le désastre du crédit mutuel. Il ne crut pas une minute à l'innocence de Vincent Faverolles, mais il fut persuadé qu'il n'était pas seul coupable, que c'était pas à lui qu'était revenue la plus grosse part des 12 millions volés, et qu'enfin il avait été dupe des mêmes gredins qui avaient si audacieusement autrefois dépouillé le marquis de Trégard. « Et je le prouverai !» s'était-il écrié. Il se voyait la veille de tenir parole, et de là lui venait cette exaltation joyeuse dont Maxence s'étonnait. « Bien maintenant que nous voilà seuls, reprit-il, examinons un peu nos pièces à conviction. » Ayant dit, il tira d'un carton la dénonciation qui lui avait été confiée, et il la rapprocha de la lettre arrachée par M. de Trégard à son adversaire. Manifestement, l'écriture était la même. « Ce qui prouve, s'écria le commissaire, que ce n'est pas d'hier que l'homme suspect du grand salon et l'âme damnée de Madame de Thaler. Au même procédé, il m'avait bien semblé reconnaître les mêmes intrigants. Si M. de Trégard pouvait réussir, oh, d'un seul coup de filet, nous prendrions toute la bande. » Le claquement de la porte brusquement ouverte lui coupa la parole. M. de Trégard rentrait, tout essoufflé d'avoir couru. « Zélie a parlé, dit-il. » Et tout de suite, s'adressant à Maxence, « Oh, vous, mon cher ami, reprit-il, vous allez courir à l'hôtel des Folies. » Lucienne serait-elle plus mal? Non, 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 c'est pas de Lucienne qu'il s'agit. Zélie a parlé, mais rien ne nous prouve qu'à la réflexion, elle ne s'en repentira pas. Rien ne nous dit que l'idée ne lui viendra pas d'aller donner l'éveil. Donc, vous allez rentrer et ne pas la perdre de vue. jusqu'au moment où j'irai la prendre demain matin. Si elle voulait sortir, vous l'en empêcheriez. Le commissaire avait compris l'importance de la précaution. Et vous l'en empêcherez, fût-ce de force, insista-t-il. Et au besoin, je vous autorise à requérir l'agent que j'ai en observation devant l'hôtel des Folies et que je vais faire prévenir. Maxence sortit en courant. Pauvre garçon, murmura Marius. Je sais où est ton père, mais maintenant, qu'allons-nous apprendre ? Il avait à peine eu le temps de rapporter les renseignements qu'il venait d'obtenir de Madame Cadel, lorsque reparut le premier des émissaires du commissaire de police. La commission est faite, dit-il, du ton de suffisance d'un homme qui a mené à bien une tâche difficile. Vous avez le nom de l'individu qui a provoqué M. de Trégard ? Oui, c'est un nommé Corvi, dont la réputation est faite dans toutes les tables d'hôtes, où il y a des femmes et où on taille un petit bac de santé après le dîner. Je ne connais que lui. C'est un mauvais gars qui se donne pour un ancien officier supérieur de l'armée italienne. Son adresse. Il demeure rue de la Michaudière, chez une dame qui loue des chambres meublées. J'y suis allé, le portier m'a répondu que mon homme venait de sortir avec un particulier de mauvaise mine et qu'il devait être un petit café borgneux au coin de la rue. J'y ai couru et en effet, j'ai vu mes deux gaillards attablés devant des bocs. Ne nous lisserions pas entre les doigts ? Au bon danger, ils sont bouclés. Comment cela ? C'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, s'ils allaient filer. Et tout de suite, je suis allé avertir des sergents de ville. Je suis alors revenu m'embusquer près du café. Justement, on le fermait. Les deux particuliers sont sortis. J'aurais cherché une querelle d'allemand. Et maintenant, ils sont au poste, bien recommandés. Le commissaire fronçait les sourcils. Oh, c'est peut-être beaucoup de zèle, murmura-t-il. Enfin, puisque c'est fait. Vous êtes-vous informé de M. Saint-Pavin et du banquier Jotras ? Bon, je n'ai pas eu le temps, il était trop tard. Monsieur le commissaire oublie qu'il est près de 2 heures. Comme il finissait, le secrétaire qui avait été envoyé rue de la Pépinière reparut. Eh bien, interrogea le commissaire de police, non sans une visible anxiété. Bien, j'ai attendu Madame de Thaler plus d'une heure, répondit-il. Et quand elle est rentrée en voiture, je lui ai remis la lettre, elle l'a lue, et m'a donné les 2000 francs que voici, en présence de plusieurs domestiques. À la vue des billets de banque, le commissaire de police s'était dressé d'un bond. « C'est fini !» s'écria-t-il de l'accent du triomphe. « Voilà la preuve qui nous manquait !» Il était plus de 4 heures lorsqu'il fut enfin permis à Marius de Trégard de regagner son logis. Il s'était longuement et minutieusement concerté avec le commissaire de police. Il s'était efforcé de prévoir toutes les éventualités. Sa conduite était parfaitement tracée et il emportait cette certitude qu'en ce jour, qui se levait, serait définitivement gagné ou perdu l'étrange partie qu'il jouait. Lorsqu'il arriva chez lui, « Enfin, vous voici, monsieur !» s'écria son fidèle domestique. C'était l'inquiétude, évidemment, qui avait tenu ce brave homme sur pied toute la nuit. Mais telle était la préoccupation de Marius qu'il n'y prit pas garde. « Personne n'est venu en mon absence » interrogea-t-il. « Pardonnez-moi, un monsieur ?» s'est présenté dans la soirée, M. Costeclar, qui a paru très contrarié de ne pas trouver monsieur. Il venait à ce qu'il m'a dit pour une affaire très importante que monsieur sait bien, et il m'a chargé de prier monsieur de l'attendre demain, c'est-à-dire aujourd'hui, avant midi. Monsieur de Costeclar était-il envoyé par monsieur de Thaler? Le directeur du Crédit Mutuel avait-il réfléchi et se décidait-il à accepter les conditions qu'il avait d'abord refusées ? Il était dans ce cas trop tard. Il n'était plus au pouvoir de qui que ce fût de suspendre l'action de la justice. sans plus s'inquiéter de cette visite. « Oh, je suis écrasé de fatigue, » dit M. Trégard à son domestique, « et je vais me jeter sur mon lit. À 8 heures précises, tu m'éveilleras. » Mais c'est en vain qu'il demanda au sommeil quelques instants de répit. Depuis 48 heures que son esprit restait tendu outre mesure, ses nerfs s'étaient montés à un degré d'exaltation presque intolérable. Dès qu'il fermait les yeux, c'est avec une implacable précision que son imagination lui représentait tous les événements qui s'étaient succédés depuis cet après-midi de la place royale où il avait osé avouer son amour à Mademoiselle Gilberte. Qui lui eût dit alors qu'il engagerait cette lutte dont l'issue fatalement allait être quelque scandale abominable où son nom serait mêlé? Qui lui eût dit qu'insensiblement et par la force même des choses, il en arriverait à surmonter toutes ses répugnances et à rivaliser de ruses et de combinaisons tortueuses avec les misérables qu'il prétendait atteindre? Mais il n'était pas de ceux qui, une fois engagés, regrettent, hésitent et reculent. Sa conscience ne lui reprochait rien. C'était pour la justice et le droit qu'il combattait. Et Mademoiselle Gilberte devait être la récompense du succès. 8 heures sonnèrent. Son domestique entra. « Cours me chercher une voiture, » commanda-t-il. « À la tour de main, je suis prêt. » Il était prêt, en effet, quand le vieux serviteur reparut. Et comme il avait en poche de ses arguments qui donnent des jambes aux pires chevaux de fiacre, moins de 10 minutes plus tard, il arrivait à l'hôtel des Folies. « Comment va Mademoiselle Lucienne ?» demanda-t-il tout d'abord aux honorables hôteliers. L'intervention du commissaire de police avait rendu le sieur Fortin et son épouse plus souples que des gants et plus doux que miel. « Oh, la pauvre chère fille va beaucoup mieux, » répondit la Fortin, « et le médecin qui sort d'ici répond d'elle désormais. C'est bon, il y a du grabuge là-haut. » « Du grabuge ? Oui, cette dame que vous avez envoyée chercher hier soir par mon mari voudrait absolument s'en aller, et M. Maxence la retient de sorte qu'ils sont en train de se disputer et écouter plus tôt. » On entendait en effet les éclats de voix d'une violente altercation. M. de Trégard s'élança dans l'escalier, et sur le palier du second étage, il trouva Maxence obstinément cramponné à la rampe, tandis que Mademoiselle Zélie Cadel, plus rouge qu'une pivoine, prétendait le forcer à lui livrer passage et l'accablait des injures les plus salées de son riche répertoire. Apercevant Marius, « Est-ce vous, lui cria-t-elle, qui avez ordonné qu'on me retint ici malgré moi? Mais de quel droit suis-je votre prisonnière ?» L'irriter encore eût été imprudent. « Pourquoi vouloir partir ?» fit doucement M. de Trégard. « Juste au moment où vous saviez que j'allais venir vous prendre. » Mais elle lui coupa la parole et haussant les épaules. « Avouez donc la vérité, » fit-elle. « Avouez donc que vous êtes défié de moi. »« Oh, mais vous avez eu tort. Moi, que j'ai promis, je tiens. Si je voulais rentrer chez moi, c'était pour m'habiller. » Puis je me montrerai dans la rue telle que je suis. » Et elle étalait son peignoir, tout passé en effet, et tout couvert de taches. « J'ai une voiture en bas, » dit Marius. « Personne ne vous verra. » Sans aucun doute, elle comprit qu'hésiter serait inutile. « Comme vous voudrez, alors, » dit-elle. Monsieur de Trégard attira Maxence un peu à l'écart, et à voix basse, très vite, « Vous allez, lui dit-il, vous rendre rue Saint-Gilles et, de ma part, prier votre sœur de vous accompagner. Vous prendrez une voiture fermée et vous irez attendre rue Saint-Lazare, en face du numéro 25. Il se peut que le secours de Gilberte me devienne indispensable. Et comme Lucienne ne doit pas rester seule, vous demanderez à Madame Fortin de monter près d'elle. » Et sans attendre une réponse, « Partons, » dit-il à Madame Cadel. Ils se mirent en route, mais la verve effrontée de la jeune femme s'était absolument éteinte. Il était clair qu'elle regrettait amèrement de s'être tant engagée et de n'avoir pu s'esquiver au dernier moment. À mesure que le fiacre roulait, elle pâlissait et ses sourcils se fronçaient. « C'est égal, commença-t-elle. C'est pas propre ce que je fais. Vous repentez-vous donc de m'aider à punir les assassins de votre ami ?» dit Monsieur de Trégard. Elle secoua la tête. « Oh, je sais bien que le père Vincent est une vieille canaille, mais il s'était fié à moi. Et je le trahis, je le livre. »« Non, vous vous trompez, madame. Me fournir le moyen de parler à Monsieur Favoral est si peu le livrer que je ferai tout au monde pour qu'il puisse se soustraire aux recherches de la police et passer à l'étranger. Oh, quelle plaisanterie! Mais c'est l'exacte vérité, je vous en donne ma parole d'honneur. » Elle parut un peu rassurée, et lorsque la voiture tourna à rue Saint-Lazare, « Faites arrêter, » dit-elle à Monsieur de Trégard. « Pourquoi ?»« Ben pour que j'achète le déjeuner du père Vincent. Il ne peut pas descendre au restaurant, cet homme. Et il a été convenu que je lui porterais à manger. » Les défiances de Marius étaient loin d'être dissipées. Et cependant, il ne crut pas devoir refuser, se promettant bien de ne pas quitter Mademoiselle Zélie d'une semelle. Il la suivit donc chez le boulanger et chez le charcutier. Et lorsqu'elle eut fini son marché, il entra avec elle dans la maison de modeste apparence où elle avait son appartement. Déjà, il montait l'escalier lorsque la portière sortit en courant de sa loge. « Madame » appelait-elle, « Madame !» Madame Cadel s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Une lettre pour vous. »«
Pour moi. »«
Oui, la voilà. » C'est une dame qui l'a apportée il n'y a pas 5 minutes. Vrai, elle avait l'air bien contrariée de ne pas vous rencontrer. Mais elle va repasser. Elle savait que vous deviez venir ce matin.
Monsieur de Trégard, lui aussi, s'était arrêté. Comment est cette dame? Interrogea-t-il.
Oh, tout en noir, avec une voilette épaisse sur la figure. Je vous remercie, c'est bien.
La portière ayant regagné sa loge, Madame Zélie rompit le cachet. La première enveloppe en contenait une autre, sur laquelle elle éplat, car elle ne lisait pas très couramment,
pour remettre à Monsieur Vincent. « Oh, on sait qu'il se cache chez moi, » murmura-t-elle abasourdie, « mais qui peut le savoir ?»«
Qui, mais la femme dont Monsieur Favoral tenait si fort à ménager la réputation ?» quand il vous a installé rue du Cirque. Oh, il n'était pas de souvenir plus irricard, plus violemment la jeune femme.
« Vous avez raison, » fit-elle. « Oh, m'a-t-il fait assez poser le vieux scélérat. Oh, mais il va me le payer. »
Ce qui l'empêche qu'en arrivant à son étage, le troisième, au moment de glisser la clé dans la serrure, ses perplexités la reprirent.
« S'il allait arriver à malheur, » gémit-elle.
« Que craignez-vous ? » ?»«
Oh, le père Vincent a toutes sortes d'armes. Il m'a juré que le premier qui pénétrerait dans l'appartement, il le tuerait comme un chien. S'il allait tirer sur nous. »
Elle avait peur, une peur terrible. Elle était blême et ses dents claquaient. « Voulez-vous que je passe le premier ?» proposa M. de Trégard.
« Non, 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 c'est bon. Si vous étiez un bon garçon, vous feriez ce que je vais vous demander. Dites-vous, voulez-vous ?»«
Bon, si c'est faisable. »«
Oh, certainement. Voilà la chose. Nous entrons ensemble, n'est-ce pas ?»« Seulement, vous ne faites aucun bruit. »« Moi, j'avance seul, j'attire le père Vincent dans la grande pièce qui sera mon atelier, je lui remets ses provisions et la lettre et... » Je le prépare à vous recevoir. Et vous, pendant ce temps, vous restez dans un grand cabinet vitré, d'où on peut tout voir et tout entendre. Et au bon moment, v'là'en vous paraissez.
C'était en somme fort raisonnable.
Acceptez, dit Marius.
Alors, dit-elle, tout ira bien. La porte du cabinet vitré est à droite en entrant. Marchez doucement, surtout. Et elle ouvrit.